C'est plutôt pas mal, j'avoue, comme quête de travail. Donc là, on a le glacier du Lautaret droit devant, le gros, et ensuite on a le glacier de l'Homme juste un peu plus haut sur notre droite. Et là, bien dégagé aussi, on voit le fameux crayon qui est la Meije. C'est plutôt génial comme cadeau, ouais. Je m'appelle Enzo, donc je suis technicien de recherche au jardin du Lautaret. Donc là, je suis sur la manip sécosse. Donc la manip sécosse, elle consiste à recréer un grand épisode de sécheresse sur la période estivale, par exemple. Là, je suis en train d'arroser les plots parce que il y a différents milieux, on va dire, avec des plots de terre donc qui ont été récupérés sur plus l'étage alpin et d'autres sur l'étage subalpin. Et en fait, ça fait des paires. À chaque fois, on les a récupérés au même endroit. Et l'expérience qui consiste à recréer la sécheresse, il y a des plots donc qui vont servir de test. Donc ceux-là, on va pas du tout les arroser, vraiment comme un épisode de sécheresse. Et les autres qu'on va arroser pour maintenir en gros en vie un peu le plot et qu'on ait un référentiel avec donc des quantités d'arrosage qui sont dosées. Donc c'est 5 mm, donc ce qui est des petits épisodes de pluie quoi. Donc après là on est sous un abri pour que vraiment en fait il n'y ait pas du tout d'averse de pluie externe, qu'on contrôle vraiment tout ça. Et donc voilà sur cette manip quoi.
Le jardin de Lautaret, donc il a été créé par l'Université de Grenoble hein, dès 1899. Et dès l'origine, il a eu ses principales missions, c'était vraiment l'éducation et la recherche. Hein, dès le départ, donc l'éducation du grand public, la formation des étudiants et la recherche scientifique. Hein, c'était un établissement universitaire et donc il remplit toutes les missions de l'université. Avec en plus une dimension grand public hein, qui est un peu particulière au site, d'accord, puisque c'est aussi un site touristique. Et donc ces missions, il les perdure depuis le début, et en plus ça a été renforcé par le fait que c'est devenu une unité mixte CNRS Université en 2005. Donc l'ajout du CNRS a bien sûr renforcé la dimension recherche évidemment du site. Ça a vraiment complété l'offre qui était déjà présente. Je suis donc Roland Douzet, je suis donc directeur adjoint du Jardin du Lautaret et enseignant à l'Université Grenoble-Alpes. J'y enseigne la botanique, l'évolution des végétaux, la physiologie, l'écophysiologie et l'écologie. L'intérêt du Lautaret, c'est que c'était un site déjà avec une route carrossable, on pouvait déjà monter en voiture dès la fin du 19e siècle, et il y avait aussi un hôtel déjà présent, donc il y avait déjà un tourisme déjà présent en fait. Même le premier jardinier à l'époque, le personnel du jardin était hébergé à l'hôtel, donc voilà, donc c'était vraiment un site qui était déjà en fait une prêt pour ça, et c'est pour ça que le jardin a perduré. Dès le début, il a pu remplir ses missions. À la fois, les gens pouvaient venir, il y avait déjà du tourisme et les chercheurs pouvaient monter de Grenoble sans trop de difficultés. À l'époque, il leur fallait peut-être 2 jours, mais bon, ils pouvaient monter quoi. On pouvait accéder, on pouvait monter du matériel, on pouvait voilà. Alors qu'à Champs-Rousses, il fallait monter avec un mulet, etc. C'était complètement voilà, c'était un autre monde. C'est pour ça que le seul qui a survécu, c'est celui du Lautaret. Ce qui était idéal aussi pour le jardin botanique, c'était le fait que la région est très riche naturellement en flore. La flore de la région est extrêmement riche à l'état naturel, hein, puisqu'on estime que en gros, sur un rayon de 20 km autour du col, on a à peu près un gros 1600 espèces, à peu près un gros quart de ce qui pousse en France à l'état sauvage. Donc ce qui est beaucoup. Donc il y avait déjà un environnement naturel riche, du coup ça permettait déjà de faire un jardin assez riche rapidement, puisqu'il y avait à portée de la main, il y avait à peu près déjà beaucoup, beaucoup de choses déjà à portée de main. C'était un haut lieu de la botanique historiquement aussi très connu. Le col du Lautaret était très connu pour sa richesse, donc déjà il y avait un passé important de ce côté-là. Donc tout ce qui est naturaliste, un peu, voilà, à l'époque, fin 19e, tout ça, et début 20e, il y en avait pas mal. Donc c'est un site qui était déjà attirant. Une des premières recherches qui a été menée ici sur le site, hein, c'était une recherche agronomique, entre guillemets. hein, où on testait des variétés de légumes divers et variés, de carottes, de choux, de patates, de tout ce qu'on veut, en vue de faciliter la vie des gens en montagne, hein, parce qu'au début du XXe siècle, il faut bien voir que la vie en montagne était extrêmement difficile, et donc les chercheurs avaient l'ambition d'améliorer la vie des paysans des hautes montagnes, en leur donnant des variétés de légumes qui étaient plus productives, qui poussaient bien, qui avaient des forts rendements, etc. Et donc ils testaient tout un tas de variétés de légumes. C'était de la recherche scientifique. C'était déjà de la recherche scientifique. On poursuit un peu ça, parce que par exemple, là, on a un programme de recherche sur l'arnica, sur le développement de la culture d'arnica. Donc ça, c'est un partenariat avec le département des Hautes-Alpes, et la chambre d'agriculture, etc., les réseaux des agriculteurs bio du département. Et dans ce programme, on a développé la culture d'arnica. Donc on a expérimenté la culture d'arnica chez différents producteurs dans la région. Et ça a été piloté par le jardin. On a embauché une personne qui travaille sur ce projet et qui a piloté ce projet voilà, sur les deux, trois années précédentes. Là. Parce que si jamais ça fonctionne, ça peut effectivement déclencher la production d'arnica en culture, etc., plutôt que la récolte sauvage, puisque le but, c'est quand même d'essayer de faire de la culture plutôt que de la récolte nature, puisque ça crée des problèmes sur la ressource. Hein, qui est surexploité, puisqu'il y a déjà, par exemple, typiquement, cette année dans les Vosges, ils ont interdit la récolte, hein, donc, parce qu'il n'y en a plus. Donc, voilà, donc si on peut développer une culture, évidemment. Donc là, les applications sont immédiates. Après, c'est beaucoup de recherche aussi, c'est la recherche pas mal fondamentale quand même. Hein, donc les applications sont éventuelles, mais souvent elles sont quand même assez lointaines. Hein, voilà. On est une structure d'accueil, donc c'est pas nous qui avons décidé de faire ce genre de recherche. Hein. Il faut qu'il y ait une proposition. Mais si des chercheurs ont envie de tester des légumes ici, s'ils ont un problème de recherche, pourquoi pas?
La première étape, on va s'assurer que l'appareil a un bon teneur de gaz. Donc là, on mesure à chaque fois le dioxyde de carbone, donc le CO2, parce que c'est ce qui est indicateur lors de la respiration ainsi que la photosynthèse. Donc photosynthèse, il y a une production de CO2 et respiration, il y a une consommation de CO2. Donc là, au niveau du gazmètre, on va commencer par poser la cloche sur un plot. Ensuite, on attend 10 minutes, histoire que tous les flux, tous les gaz se permettent de juste tenir en circuit fermé, en fait, et que ça s'accumule à l'intérieur. On a deux types de cloches, une cloche transparente et une cloche opaque. Et en fait, la cloche transparente, c'est juste pour mesurer les gaz et les échanges gazeux qui se font, donc que ce soit sur plus l'espace microbien, donc au niveau du sol, et aussi donc l'espace végétal, donc plus aérien. Là, par exemple, on va commencer par faire tous les transparents sur un type de milieu. Donc là, par exemple, l'alpin. Donc là, ça va être plutôt sur des carex. Et ensuite, après, sur l'étage subalpin. Donc là, ici, notamment avec des fétuques paniculées. Voilà, donc on attend 10 minutes, histoire que tout le processus s'équilibre. Une fois que ces 10 minutes sont faites, hop, on enlève la cloche, on laisse un peu la vidange se faire, histoire que les gaz se rééquilibrent et qu'on retombe à des valeurs égales à l'atmosphère. Et ensuite, on passe à tous les autres plots. Voilà, tac, tac, tac. Une fois qu'on a fait tous les transparents, on passe à l'opaque. Et en fait, l'opaque, ça nous permet vraiment de nous concentrer sur la respiration. Puisque du coup, comme la photosynthèse ne se fait plus, puisqu'il n'y a plus de lumière qui rentre, donc il n'y a vraiment que la respiration. Et en fait, à chaque fois, tous ces échanges gazeux, et on va avoir une courbe qui se tient sur le dioxyde de carbone, et bien ça va nous permettre de nous rendre compte un peu de la qualité et d'où en est un peu la situation végétale, un peu sur ce milieu. Donc en gros, est-ce que les plantes sont plutôt en bonne santé ou pas? Voilà, et donc avec différentes courbes, différentes morphologies de courbes un peu, on arrive du coup à déterminer à quelle quantité en gros il prend sur de l'espace microbien et d'autres plus végétales. Cette expérience, elle est vraiment très intéressante. C'est un premier protocole, c'est la première fois que ça se fait ici. Et en fait, c'est la réunification de plusieurs labos. C'est ça qui est intéressant, c'est que, par exemple, là, surtout les lysimètres, donc avec l'arrosage et l'eau qui est récupérée, ça va être plus un labo qui va être chargé de regarder ce qui se passe un peu dedans. Plus pour les gaz, ça va être encore un autre. Et en fait, c'est tout un réseau et tout le monde communique entre eux et c'est super intéressant tout ça. Je ne m'occupe pas uniquement de cette expérience en particulier, parce que comme du coup je suis technicien de recherche, je m'occupe justement de toute cette maintenance, un peu de toutes les manips justement de recherche, que ça soit sur l'entretien ou alors comme là ici justement, faire en sorte que la manip continue quoi. On a des protocoles, certaines fois, donc du coup on doit les faire pour que comme ça en fait les chercheurs ont juste des données et qu'ils puissent exploiter les données, et là en gros c'est ce qui se passe. Mais bon, je suis pas tout seul, hein. On est 3, 4, voire 5 à s'occuper de ça. Il y a différents processus encore plus sur Cécos. Il y a par exemple des moments où on va recréer des orages, donc des orages entre guillemets quoi, parce que c'est juste la quantité d'eau qui va varier ainsi que le débit sur le temps. Donc là par exemple, là on fait juste des pluies de 5 mm et là par exemple à chaque fois c'est versé l'équivalent de 35 mm de pluie, donc sur une heure. Voilà, donc c'est encore différent, et là il faut qu'il y ait vraiment plus de personnes que juste tout seul, parce que sinon on y est jusqu'à la tombée de la nuit.
Il y a différentes expériences qui sont menées ici. Alors on en a vu quelques-unes, il y en a quelques-unes qui sont visibles directement dans le jardin. Donc c'est le cas par exemple du programme Cécos, là, qui est un programme où on reconstitue une sécheresse, comme il y en a eu en été 2022. On a aussi un autre système qu'on appelle le cryotron, qui est un système qui permet de, pareil, pour certains des bouts de pelouse qui ont été prélevés, pareil, des bouts d'écosystème qui ont été prélevés, de voir l'effet de l'absence de neige. Donc là, on a un système qui permet d'éviter que l'hiver, que la neige tombe. Donc il se referme, c'est un système qui se referme dès que la neige tombe, qui se rouvre dès que la neige a fini de tomber, et donc ça permet d'avoir des hivers sans neige, et on voit l'effet donc d'hivers sans neige sur des communautés végétales. Alors après, on a d'autres expériences, alors qui n'étaient pas sur site, d'autres expérimentations sur l'environnement. On a la plus connue, entre guillemets, c'est ce qu'on appelait alpage volant, où là, on a carrément déplacé sur deux sites, on a déplacé des bouts de pelouse, donc des mètres carrés de pelouse, et en tout 40 mètres carrés de pelouse, qui ont été descendus par hélicoptère de 2400 mètres à 900 mètres, donc on a eu en gros 500 mètres de descente. Donc ça, 500 mètres de descente, ça mime un réchauffement à peu près de 3 degrés. Donc on a déplacé des pelouses, on leur a imposé entre guillemets un réchauffement climatique de 3 degrés. Et là, pareil, il y a un suivi au long cours qui est fait, où les espèces sont suivies, l'activité microbienne du sol est suivie, etc. etc. Et pareil, c'est pour voir qu'est-ce qui se passe avec 3 degrés de plus sur ces pelouses. Et dans le même esprit, toujours dans ces mêmes dans les parcelles voisines, on a par exemple disposé le système WORM, qui est un système où on a des mini-serres, des serres tronquées, hein, des espèces de pyramides tronquées, qui sont des mini-serres qui, pareil, là aussi, quand on place ces mini-serres sur une pelouse, ça fait un réchauffement de 3 degrés directement sur ces pelouses. Donc là, pareil, il y a un suivi qui est fait de ces pelouses pour voir au long tour, au bout de X années de réchauffement, ben, qu'est-ce qui arrive, voilà, comment la végétation évolue. Ces expérimentations, à quoi elles servent? Elles servent à étayer tous les modèles climatiques qui sont proposés, parce qu'on dit, voilà, ça se réchauffe de 4 degrés, mais qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être les conséquences de ce réchauffement plus tard. Donc ça sert à anticiper un peu ce qui va arriver, par exemple pour l'évolution des paysages, ça peut être très important. Aussi pour si les prairies changent, ça peut aussi changer leur valeur pastorale, par exemple, ça peut changer aussi la dynamique de la végétation, la forêt peut monter plus haut, enfin bon, il y a des tas de choses qui peuvent se passer. Est-ce que ces écosystèmes vont se mettre à relarguer du CO2, hein, par exemple, parce que c'est des systèmes où des sols étaient gelés en profondeur, les sols dégèlent, est-ce que ces écosystèmes qui étaient peut-être des puits de carbone à un moment donné, est-ce qu'ils vont devenir des sources de carbone maintenant? Donc ça permet d'étudier ça. Une pelouse qui était un puits de carbone avec moins 3 degrés, avec 3 degrés de plus, peut-être qu'elle va devenir une source de carbone. Donc elle va relarguer du CO2, donc encore contribuer au réchauffement. Donc ça permet aussi d'anticiper ce qui risque d'arriver. Et ça, en expérimentant, on pourra dire, effectivement, s'il y a 3 degrés de plus, ici, l'écosystème, il va relarguer du CO2 alors qu'avant, il en prenait, par exemple. C'est aussi pour ça qu'on a des systèmes de mesure de flux, ce qu'on appelle une tour à flux, donc le réseau ICOS, un réseau international, de mesure de flux de carbone et d'azote essentiellement dans les écosystèmes. Ici, donc, on fait partie de ce réseau et on a une tour à flux qui mesure les flux de carbone et d'azote dans une prairie de montagne. Et donc, ça, c'est du suivi au long cours et on voit comment ça évolue au fil du temps. Donc, il y a vraiment l'aspect expérimentation et l'aspect aussi suivi, mesure, long cours. Ça, c'est vraiment les deux aspects très importants.
C'était le Jardin du Lautaret, premier épisode. Avec le directeur adjoint Roland Douzet, le technicien de recherche Enzo Franceschi et le jardinier Noé Simler. Réalisation Aurélien Frances. Une production de Silence Podcast.